Bienvenue dans La Vie de l'Esprit, l'émission de Radio Grand-Ciel qui vous initie aux grandes traditions spirituelles de l'humanité. Je mesure la chance qui est mienne aujourd'hui de recevoir Catherine Despeux, sinologue, professeure honoraire à l'Institut national des langues et civilisations orientales et l'une des meilleures spécialistes françaises à la fois du taoïsme et du bouddhisme Chan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le bouddhisme Chan, on peut aussi l'appeler bouddhisme Zen au Japon, il est mieux connu sous son nom japonais. Catherine Despeux vient de faire paraître chez Rivage Poche sa traduction de 3 traités taoïstes anonymes, probablement écrits entre le 7e et le 13e siècle. Le titre du livre en éclaire assez bien le contenu, le livre de la contemplation intérieur, il s'agit bel et bien d'un traité mystique en vue de trouver ce mystérieux Tao qui excite tant la curiosité des Occidentaux, mais qu'on serait bien en peine de définir. Catherine Despeux, bonjour. Comment parler du Tao sans le trahir ?
Bonjour, eh bien je suis ravie de passer ces quelques minutes avec vous. On ne peut pas parler du Tao. C'est ce que dit le premier paragraphe, le premier chapitre du livre de la voie et de la vertu, du Tao Te Ching, qui est donc le livre de référence pour tout taoïste. C'est quelque chose qui est indescriptible, ineffable, dont on ne peut absolument rien dire, qui n'a pas d'origine précise. Donc, tout langage, en fond, est un moyen insuffisant pour pouvoir parler de quelque chose dont on ne peut rien dire, au fond. Donc, le Tao, on en parle, quand on parle en fait de ses abords, de ce qui permet de comprendre un petit peu ce vers quoi l'on tend. Parce que le terme Tao signifie en chinois à la fois méthode, chemin, voie, et c'est aussi le but, quelque chose qui est là et qui œuvre en fait de manière parfaite. Donc quand on a cheminé et qu'on a trouvé le Tao, eh bien on se rend compte qu'il n'y a eu ni chemin ni Tao, mais que voilà. Il se passe quelque chose de différent. Et les taoïstes disent qu'on a trouvé le Tao, mais on n'a pas vraiment trouvé. Dans le bouddhisme Chan, il y a une métaphore qui explique un petit peu cela en parlant du doigt qui montre la lune. Et souvent, les disciples, les gens confondent le doigt avec la lune. Donc le doigt est là pour montrer la lune, mais il ne faut pas confondre le doigt avec la lune. Donc de la même façon, dans le taoïsme, quand on parle de Tao, c'est à la fois ce chemin qui va montrer quelque chose qui n'est pas un but en soi, mais bon, disons que pour l'instant on l'appelle Tao, et il ne faut pas confondre donc ce cheminement, toutes les voies qui sont proposées avec ce qu'on appelle le Tao.
Le Tao n'est pas un dieu créateur, mais à la fois, il est tout de même à l'origine de tout, c'est ça ?
Oui et non, puisqu'on peut dire qu'il n'y a pas d'origine, mais on est bien obligé de parler d'origine, sinon on est complètement perturbé et effaré par cette idée que du néant. Or, le Tao n'est effectivement pas du tout le néant. Donc, on parle d'origine, mais sans création. C'est-à-dire qu'il y a une origine à toute chose, mais cette origine est elle-même l'origine d'une origine, et cela à l'infini. Donc il n'y a pas d'origine première, mais il y a toujours une origine, quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Autrement dit, si j'emploie les termes de la cosmologie chinoise d'une manière générale et taoïste, il y a alternance de yin et de yang. Et le yin et le yang, c'est la manifestation de quelque chose qui nous échappe. Et cette chose qui nous échappe, qu'on peut appeler une origine première, mais qui n'est pas une origine première, les taoïstes l'appellent l'indistinction, le chaos, le nébuleux, vraiment quelque chose dont on ne peut rien dire et que l'on ne peut pas décrire véritablement, mais que l'on perçoit à travers toutes les manifestations de la vie, quelles qu'elles soient. Le Tao est partout.
Alors, on parle aussi, si je ne m'abuse, du Tao du ciel et du Tao de l'homme. C'est quoi la différence?
Alors, le terme Tao, en fait, est un terme qui est commun à pratiquement tous les philosophes de la pensée chinoise antique.
Oui.
Et chacun en a eu une explication différente. Donc, le Tao du ciel, le Tao de l'homme, on parle aussi du Tao de la terre. Dans ce cas-là, il s'agit de la voie, de la méthode, du chemin, du processus, et plus du tout du Tao qui est le Tao dont parlent les taoïstes, c'est-à-dire cette chose qui n'en est pas une.
Alors, vous l'avez dit, le Tao est à la fois la voie et le but. Il est sans doute bien plus que ça, ça on l'a compris. Mais alors, si l'on suit cette voie, où va-t-on? Vers quelle révélation? Vers quelle béatitude? Et ces deux mots ont-ils seulement un sens pour un taoïste?
Eh bien non, justement, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de béatitude, il y a, on pourrait dire, redécouverte de quelque chose qui est là de tout temps. Sauf si l'individu perd ce qu'on appelle le temps, c'est-à-dire perd la voie, perd la méthode, et cette voie, c'est quand même essentiellement quelque chose qui que l'on peut percevoir dans le fonctionnement de la nature. Le temps, c'était aussi à l'origine l'orbite de tous les astres, de toutes les étoiles, de tout ce qui se meut dans le ciel. Les Chinois sont de grands observateurs, et dans le taoïsme, il y a à l'origine de toute cette philosophie, de toute cette pensée, une très fine observation de ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent le ciel et la terre. Et pour les Chinois, le ciel et la terre donc sont des modèles de fonctionnement, et l'homme est intermédiaire entre les deux et communique à la fois avec le ciel et la terre. Si l'homme perd cette harmonie et cette interaction normal, naturel, avec son environnement, eh bien dans ce cas-là, il y a, on pourrait dire, déperdition de la voie, c'est-à-dire qu'on contrarie le processus normal d'évolution des choses, et dans ce cas-là, les taoïstes disent qu'on a perdu le wu-wei. Le wu-wei, qui est le nom d'agir, qui n'est absolument pas du tout un passéisme, il ne s'agit pas du tout de ne rien faire, mais c'est tout simplement ne pas mettre son grain de sel dans le cours des choses, qui est un cours parfait dès le départ. Au fond, il y a cette idée que c'est l'homme qui gâte les choses, c'est ce que disent les textes en disant ce n'est pas la voix qui tourne le dos à l'homme, mais c'est l'homme qui s'en détache, qui ne la comprend pas, et donc qui la perd. Donc on peut dire que cet idéal, si vous voulez, dans ce processus, c'est d'arriver à se lâcher prise, à laisser les choses, on pourrait parler du divin d'une certaine façon, en soi. Et ce n'est pas une révélation à proprement parler, mais c'est quand même la découverte de quelque chose qui a toujours existé, mais qui est voilé par toute la façon on pourrait dire dévié, non naturel, qu'à l'esprit de voir le monde à travers ses organes des sens et à travers ses désirs.
Est-ce qu'on peut comparer ce fameux wu-wei, ce non-agir dont vous avez parlé, à ce qui est dit finalement dans la Bhagavad Gita, dans la tradition donc indienne, hindoue, que finalement on doit agir sans rien attendre des fruits de l'action? Est-ce que c'est de cet ordre-là?
Tout à fait, tout à fait. Le fait d'avoir un but, donc d'avoir quelque part un désir, une intention particulière, ça empêche ce wu-wei de vrai parfaitement. Donc c'est là tout le processus du taoïsme, qui est un processus très très long, très complexe et qui comprend des efforts. Il ne faut pas faire de contresens en pensant qu'il faut laisser les choses aller comme ça. Pas du tout. C'est une voie très exigeante, mais qui demande justement de laisser se dépouiller, on pourrait dire, c'est une sorte de dépouillement, dépouillement de tous les habits que l'on a sur soi, dépouillement de toutes les habitudes, dépouillement de tout ce qui nous amène vers un but particulier et qui fait que si ce but, si ce désir n'est pas satisfait, eh bien, on n'est pas heureux. Voilà. Alors, là aussi, c'est compliqué parce qu'il ne s'agit pas non plus de supprimer le désir ou de le réprimer. Ce serait pire que tout. Qu'est-ce qu'on fait du désir? Eh bien, c'est un désir qui devient de plus en plus généralisé, c'est-à-dire que si on apprend à ne pas se figer sur le désir d'un moi qui veut quelque chose de précis parce que son histoire fait que c'est ça qui va le satisfaire, eh bien, s'il arrive petit à petit à trouver comment naît le désir, à trouver que au fond, ben, ce but qu'il a, c'est peut-être pas le meilleur, à ce moment-là, naît quelque chose qui est de l'ordre du désir sans but particulier et qui est la force de vie. Cette force vive, cette force de vie, qui est une force sacrée, j'ose même dire, les taoïstes me pardonneront, j'espère, une force divine. Et c'est ça qui doit, à ce moment-là, jaillir sans obstacle, sans encombre, et qui fait très souvent peur quand on est sur le chemin. Il y a, c'est un chemin qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas facile et plein d'embûches. Et une des embûches, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, c'est ce nouveau et ce merveilleux qui d'un seul coup vous envahit et qui vous est inconnu. Donc c'est aussi ce lâcher prise par rapport à quelque chose d'inconnu. Il faut oser faire confiance. C'est une sorte de foi, de confiance en la vie avec un grand V, la vie qui est au-delà de la vie et de la mort, mais tout ce mouvement qui fait que le monde existe.
Ça fait beaucoup de bien ce que vous dites, parce que finalement, là, on est dans une période historique où, tout du moins, on a le sentiment tous d'être dans une période historique extrêmement difficile, avec toujours ce spectre d'une troisième guerre mondiale. Garder confiance pour chacun d'entre nous, c'est une voie tout à fait merveilleuse qui me paraît parfois inatteignable, mais ce n'est pas le cas.
Pas du tout. Et c'est intéressant votre exemple parce qu'au fond, les plus grands textes taoïstes, les plus grands sages sont apparus au moment de chaos et au moment de trouble. Et certains aspects du taoïsme qui la touchent au taoïsme yogique ou au taoïsme religieux ont aussi été développés pour faire face à des famines, pour pouvoir survivre dans un monde très difficile. Et garder malgré cela cette capacité que la vie continue et d'avoir confiance et de ne pas s'être entaché par justement soit le bonheur, soit le malheur. Puisque bonheur et malheur sont deux écueils. Si on a un bonheur particulier, eh bien on connaîtra jamais cette sérénité et cette félicité, pourquoi pas parler de béatitude, cette félicité qui est faite d'un équilibre qui fait que tout est bien en soi. Voilà. Autrement dit, le point de départ n'est plus un esprit ou une âme particulière qui se place de son propre point de vue, mais qui s'intègre dans un tout et qui continue à fonctionner de manière harmonieuse dans ce tout. Et la meilleure façon de fonctionner en cas de trouble, eh bien, c'est justement de savoir comment tenir compte du mouvement pour ne pas aller contre en s'opposant et par des guerres et par des conflits, mais savoir que la période, bon, est pas propice à certaines choses et donc que c'est d'autres façons de s'installer, de s'inscrire dans cette période qui permettront que les choses évoluent et de toute façon, tout évolue. On sait très bien, le bouddhisme insiste encore plus peut-être que le taoïsme là-dessus, mais on sait très bien que tout ce qui naît est amené à disparaître. Donc la vie et la mort, ça fait partie de du vécu habituel, du bon sens de chacun. Tout le monde sait cela. Et il y a donc cette force de vie qui, de toute façon, à la mort d'un individu, continue d'une autre façon. Peu importe, les taoïstes parlent par influence du bouddhisme de réincarnation, mais ce n'était pas une notion qui était là au départ. Zhuangzi, qui est un penseur très un peu indépendant du taoïsme, mais très très intéressant, dit que quand on meurt, eh bien, on retourne au grand tout, on retourne à la nature, et c'est ça l'essentiel, de savoir cela. Donc, de savoir aussi se détacher de cette idée que l'on est un esprit, quelque chose qui serait enfermé dans un corps limité. Ça, c'est une forme d'esprit, mais l'esprit-cœur dont parlent les taoïstes, c'est quelque chose qui se trouve partout.
L'esprit-cœur, c'est très beau. Alors, les origines du taoïsme se perdent dans la nuit des temps, mais impossible, évidemment, d'évoquer le taoïsme sans mentionner le fameux Tao Te Ching qui est attribué à Lao Tzu. Alors, la question que je vous pose, est-ce qu'il a existé réellement, Lao Tzu? Ou est-ce que c'est une figure mythique?
On aime bien dire que les choses se perdent dans la nuit des temps, mais quand même, moi en tant qu'universitaire, je vais mettre une date sur tout ça. Et le livre de la voie et de la vertu, qui s'est forgé progressivement, remonte à peu près au 5e siècle avant notre ère. On a retrouvé dans les fouilles archéologiques des manuscrits de ce texte qui datent du 3e, 4e siècle. Voilà, donc est-ce qu'on peut remonter plus loin? Pour l'instant, non. On garde comme date approximative le 5e siècle avant notre ère. Lao Tzu, celui qui aurait écrit ce texte, est un personnage semi-légendaire. Il y a plusieurs hypothèses à son propos. Certains disent que ce serait une école, hein, qui aurait donc recueilli des aphorismes, voilà, des petits textes de pensées diverses, qui auraient été ensuite réunis en un texte. Voilà, on n'en sait pas plus sur ce texte, qui néanmoins est important puisque on parle dans la pensée chinoise d'un taoïsme philosophique qui regrouperait trois penseurs de l'Antiquité essentiels, donc Lao Tzu avec ce livre, Zhuangzi que je vous ai mentionné, et Liezi, qui est un autre personnage de l'Antiquité. Mais à partir du 1er et 2e siècle, on voit se développer des mouvements taoïstes religieux.
Oui.
Alors, il n'y a pas vraiment, c'est une distinction qui peut induire en erreur, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de distinction entre ce taoïsme philosophique et ce taoïsme religieux, dans la mesure où le Tao Te Ching comprend déjà des éléments religieux, pardon, et que le taoïsme religieux a pour classique de base le livre de la voie et de la vertu qui est récité pratiquement tous les jours par les prêtres taoïstes.
Oui.
Et ce livre de la voie et de la vertu, comme beaucoup de classiques en Chine et aussi en Occident, a servi de base pour des commentaires ou des exégèses qui vont faire dire parfois le contraire de ce que dit le texte et qui servent de support pour faire passer des idées particulières. Et c'est le cas de Lao Tzu, du livre de la voie et de la vertu, dont l'interprétation philosophique est la plus connue en Occident, mais il y a aussi des interprétations plus pratiques, où on voit derrière ces chapitres des pratiques de yoga, des pratiques religieuses, des pratiques plus particulières. Voilà.
Alors, l'autre grand texte, enfin donc il y a les trois grands textes, c'est ce Tao Te Ching, il y a le Zhuangzi et puis il y a ce qui a été traduit sous le titre Le vrai classique du vide parfait de Liezi. Mais je voudrais en revenir au Zhuangzi. Est-ce que le Tao Te Ching et le Zhuangzi sont homogènes? Est-ce qu'ils parlent des mêmes choses?
Non, pas du tout. Oui, bien sûr, ils ont un fond commun. Mais un de mes collègues, François Bilter, qui a beaucoup écrit sur le Zhuangzi, insiste bien, il a bien montré que Zhuangzi était un penseur indépendant qui se démarque au fond de la pensée que l'on trouve dans le Tao Te Ching. Ce sont en fait les historiens qui, lorsqu'ils ont voulu faire un catalogue des textes, ont mis ces textes ensemble. Mais c'est vrai que Chuang Tzu est un penseur à part, qui a plus inspiré, je pourrais dire, les courants érémitiques du taoïsme que le livre de Lao Tzu. Dans Chuang Tzu, on trouve cette image du sage qui se retire de la société, ce qui n'est pas dit du tout dans le Lao Tzu, qui a été considéré comme par certains même comme un texte de politique, comme un texte qui aurait été écrit pour conseiller en politique les souverains de l'époque. Chuang Tzu, c'est vraiment celui qui va prôner une vie alors vraiment mystique, une vie dans la nature, en niant d'une quelque part, en rejetant quelque part la civilisation et tous ses ornements, hein, qui retournent vraiment à ce qu'on appelle le brut, aux choses les plus simples possibles. Ce que dit aussi Lao Tzu, ça, ce sont des choses communes. Mais Chuang Tzu va plus loin dans cette utilisation de la nature et d'un monde qui serait le moins factice possible. Et Chuang Tzu aussi insiste beaucoup, lui aussi, sur l'imperfection du langage comme moyen de communication et comme outil qui permettrait de faire comprendre ou d'avoir accès au temps, parce que lui aussi parle du temps, évidemment. Et pour lui, le temps est partout. Et il donne un exemple qui sera repris par le bouddhisme Chan, le bouddhisme Zen. Il dit, le temps est partout, aussi bien dans les plus grandes choses que dans les plus petites, aussi bien dans les plus belles que dans les plus viles, et même les excréments, ont le temps. Le temps est partout.
Oui, il y a cette dimension, finalement, rien de beau, rien de laid, tout est vivant, c'est ça?
C'est ça. Ça, c'est le deuxième chapitre du livre de la voie et de la vertu, qui dit qu'à partir du moment où on distingue entre le beau et le laid, entre le supérieur et l'inférieur, entre les princes, les souverains et l'homme du commun, on perd le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses laides, des choses belles, des choses qui sont en haut et d'autres en bas. Mais c'est le fait de vouloir classer, établir une hiérarchie et préférer une chose plutôt qu'une autre. Au fond, toute la création, est belle. Il n'y a pas à rejeter une chose pour en préférer une autre. Et c'est certainement aussi là un des points les plus difficiles sur le chemin de la voie, sur le Tao. J'ai rencontré il y a plusieurs années à Pékin, un taoïste qui avait vécu dans le Grand Nord, dans une grotte pendant 8 ans, donc en se nourrissant d'un petit peu de riz, d'un petit peu de végétaux, ayant pas beaucoup d'eau pour vivre. Enfin, simplement, il vivait vraiment avec le peu de moyens qu'il avait. Et quelqu'un lui dit un jour: « Oh, mais tu es sale. » Et il a répondu: Moi, je suis peut-être sale à l'extérieur, mais je suis propre à l'intérieur.
Il n'y a pas de distinction finalement entre le sacré et le profane. Ce que vous dites me fait penser à cette petite phrase de l'écrivain américain Henri Thoreau, qui lui aussi a vécu un peu en ermite autour de l'étang de Walden au XIXe siècle. Il dit: si le bourdonnement des mouches n'est pas la musique des sphères, si la musique des sphères n'est pas le bourdonnement d'une mouche, alors ni l'un ni l'autre n'existe pour moi. On dirait presque que ça a été écrit par un taoïste, ça, non?
Ah, c'est très beau, merci.
Oui.
Ah oui, tout à fait. Ça pourrait être écrit par un taoïste ou un bouddhiste Chan. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est vrai.
Voilà, c'est la fin de la première partie de cet entretien absolument passionnant avec Catherine Despeux, qui est à la fois sinologue, mais aussi traductrice, spécialiste du taoïsme, comme vous avez pu vous en rendre compte, ainsi que du bouddhisme Chan, c'est-à-dire le bouddhisme zen en Chine. Voilà. Je vous invite eh bien, à réécouter cette émission passionnante en podcast sur notre site www.radiograndciel.fr. On se retrouve dans 4 semaines pour la suite de cet entretien. Quel grand plaisir nous aurons à retrouver Catherine Despeux. À tout bientôt.
Bloody right to say.